L'histoire de Caïn est pleine de ressources et beaucoup de commentaires ont été faits sur elle et sur sa, évidemment sa méchanceté parce que c'est très mal de tuer son frère. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt aujourd'hui de voir de quelle manière Caïn réagit par rapport à la contrariété, par rapport à l'épreuve, par rapport à l'échec. Parce qu'en effet, ce sont là des situations fréquentes pour nous, situation d'échec, lorsque les choses ne se passent pas comme on aurait voulu, soit par notre faute, soit autrement, c'est-à-dire cette contrariété profonde qu'a Caïn, que son sacrifice ne soit pas agréé, je reconnais que ça n'est pas très agréable. Cette situation d'échec, évidemment, beaucoup de jeunes la connaissent au moment des examens, et là encore, je dirais, certains ont bien mérité de ne pas être reçus, d'autres non. Ou même dans notre vie sans cesse, il arrive que les choses ne se passent pas comme on aurait voulu, que ce soit de notre faute ou que cela ne le soit pas. Et je pense que l'erreur profonde de Caïn, c'est plutôt d'avoir mal réagi par rapport à cette situation d'épreuve qui est le fait que son sacrifice n'ait pas été agréé. Longtemps, j'ai prêché en disant que en fait, Dieu avait bien fait de ne pas agréer le sacrifice de Caïn parce qu'il savait dans sa tête que Caïn était méchant. Mais finalement, je ne voudrais pas partir sur cette piste, mais plutôt me placer après l'événement. Caïn, pour une raison ou pour une autre, voit son sacrifice qui n'est pas agréé et c'est là que va se nouer le drame, c'est-à-dire comment Caïn va-t-il réagir. Et je pense que justement, c'est là où Caïn est exemplaire dans le mauvais sens du terme. Parce que comment Caïn réagit-il par rapport à ce problème qui lui arrive? Eh bien, il réagit par la violence. C'est-à-dire qu'il refuse l'échec, autrement dit. Pour lui, c'est insupportable. Cette injustice est insupportable et finalement justifie de sa part toutes sortes de débordements. Il refuse cet échec. Il veut supprimer la chose qui l'embête, c'est-à-dire son frère, en l'occurrence, et faire comme si cet échec n'existait pas, autrement dit. Et il veut revenir en arrière, en quelque sorte, c'est-à-dire refaire comme si de rien n'était, revenir dans la situation précédente, où il était le premier-né, bien tranquille, sans les autres pour prendre sa place. Et donc c'est cela qu'il dirige, qu'il dit, qu'il désire. Autrement dit, je crois que le vrai problème de Caïn, son péché, s'enracine dans son attitude par rapport à la réalité et n'est pas simplement le fait qu'il ait tué son frère, ça c'est un peu une conséquence de son péché, pourrais-je dire. Son problème, c'est qu'il a mal réagi par rapport au monde extérieur et par rapport aux événements et que par rapport à ces événements qui l'ont contrarié, il a cherché à les combattre plutôt que de s'y adapter. Alors c'est vrai qu'il a eu une contrariété, ce pauvre Caïn. Son sacrifice n'a pas été accepté. Bon, en soi, ça n'est quand même pas très très grave. Et comme je vous le disais, c'est une situation qui peut arriver. Parfois, en effet, comme lui, on peut se donner du mal, on veut tout faire bien, et puis voilà que les choses ne tournent pas à notre avantage. Et nous sommes, nous aussi, sans cesse en proie à de l'injustice, à de l'arbitraire, à des situations révoltantes, et sans cesse il nous arrive à nous des chocs, je dirais, qui sont des vrais ébranlements de notre vie, parce que ça n'est pas comme nous aurions voulu être, et nous considérons que c'est profondément injuste. Ça, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, évidemment. Et le problème de Caïn, c'est sa réaction qui va provoquer un désastre. Sa réaction, c'est qu'il va refuser de sortir de là, il va refuser d'aller plus loin, d'avancer, de dire « allez, on avance ». Il va rester bloqué sur son échec. Et il va refuser même, vous disais-je, cet échec, il va refuser la réalité, refuser de l'intégrer, refuser de l'accepter. Et il a voulu, par la violence, nier le cours des événements. Alors du coup, ça m'interroge ça, parce qu'on a souvent dit que Caïn avait manqué d'amour vis-à-vis de son frère. Bon, ça c'est sûrement vrai. Mais je dirais que Caïn a aussi manqué d'amour vis-à-vis du monde, c'est-à-dire vis-à-vis du cours du monde et vis-à-vis de sa propre vie. Autrement dit, Caïn manque d'amour de lui-même, parce qu'il n'arrive pas à aimer sa vie comme elle lui est donnée. Et c'est là le vrai problème. Avant même de haïr son frère, Caïn n'a pas réussi à intégrer, à accueillir, à aimer sa vie, et finalement il rejette sa vie. Il dit « ça n'est pas possible que moi, je sois ainsi renié par mon Dieu, que mon sacrifice n'ait pas été admis ». Et ça, pour lui, c'est inadmissible. Il le rejette avec violence. Et donc, Caïn n'aime pas sa vie. Il n'aime pas ce qui lui arrive. Il n'arrive pas à adhérer à la vie, à adhérer au monde et à jouer le jeu de sa vie. Et quand on n'aime pas sa vie, on n'aime pas les autres. Oui, je pense que il faut, d'une certaine façon, apprendre à aimer sa vie pour vivre en harmonie avec son existence, quelle qu'elle soit, avant de pouvoir aimer les autres. Il faut vivre en harmonie avec sa propre vie pour pouvoir aimer les autres, et il faut vivre en harmonie avec sa propre vie, cela veut dire accueillir ce qui se passe dans sa vie. L'accepter, autrement dit, l'accepter, mais plus que l'accepter comme une fatalité. Même l'aimer, est-ce possible d'aimer sa vie? D'aimer sa vie avec ses coins les plus sombres, avec ses échecs les plus cuisants, avec ses épreuves les plus dures? Eh bien, la seule clé de la vie dans toute chose, c'est l'amour. Et l'amour, c'est d'accueillir. Et quand le commandement de notre Seigneur dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, on a bien compris qu'il fallait aimer son prochain et que pour cela, il fallait aussi s'aimer soi-même. Alors j'ai longtemps compris cela dans le sens de dire qu'il faut s'aimer suffisamment, c'est-à-dire accepter le pardon et dire qu'on passe au-dessus de ses propres défauts pour avoir de la considération pour soi-même. Mais je crois que ça va plus loin. S'aimer soi-même, c'est aimer sa vie, et aimer, c'est accueillir, recevoir, accepter de comprendre. Aimer, ça veut dire entrer en relation. Aimer, ça veut dire avoir un rapport à l'objet que l'on aime, qu'il soit sa propre vie ou l'autre, qui n'est pas comme un objet que l'on essaye d'utiliser pour sa propre satisfaction ou pour le transformer ou le changer, mais qui est un autre avec lequel j'entre en relation pour essayer d'être en paix avec lui. Et je crois que c'est ça l'idéal. Je ne prétends pas y arriver, je me prêche beaucoup à moi-même, je dois vous dire, mais je pense néanmoins que je touche là quelque chose d'assez fondamentalement vrai. C'est que nous deux sommes appelés à aimer notre vie, à vivre en paix avec notre vie, ce qui veut dire avec tout ce qui lui est arrivé, avec tout ce qui nous arrive, avec tout ce qui constitue notre vie, avec ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut arriver à l'accepter, et je dirais même l'aimer. Ça, c'est la base de tout. Toute haine, toute manière de vouloir détruire ce qui ne nous plaît pas, toute volonté de vouloir faire en sorte que les choses ne soient pas comme elles sont, de voir notre propre existence, de voir les événements, de voir les autres comme des adversaires, comme le fait Caïn, ça, c'est le péché fondamental et ça détruit tout et tout le monde. Oui, il n'y a que l'amour qui nous sauve, et il n'y a que l'amour qui nous sauve parce que l'amour, cela veut dire être en paix. Et Caïn n'était pas en paix, vous disais-je. Il n'était pas en paix non pas avec son frère, mais avec ce qui lui était arrivé, avec son échec. Et la conséquence de cela, c'est qu'effectivement, il finira tout seul. Ah ça, c'est ce qu'il voulait. Mais il finira vraiment tout seul. Tout seul, coupé de tous, loin des hommes, loin de Dieu, loin de tout le monde, obligé de peiner, de travailler sur cette terre. Et vous savez, je pense que le christianisme ou l'évangile n'a pas le monopole de la juste pensée sur notre existence ou sur le monde ou sur Dieu. Et cette idée que je découvre là, en fait, elle a été dite évidemment mille fois par les philosophes grecs, les stoïciens en particulier, bien sûr. Et puis, même dans les religions primitives ont découvert ça, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de vivre en paix et de vivre heureux que celle-là. Et tenez, par exemple, je l'ai même découverte dans la religion primitive des Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique avaient, je ne sais pas si c'est une religion, en tout cas une certaine sagesse. Et eux qui vivaient dans des conditions de vie qui pouvaient être désagréables, quand on vit dehors, on souffre du chaud, on souffre du froid, on souffre de blessures, on souffre des animaux sauvages, des tigres ou des lions et des panthères, on souffre des moustiques ou d'autres choses pénibles. Et les Indiens d'Amérique disaient, si vous cherchez à combattre la nature, elle finira par vous tuer. Si vous voulez survivre, disaient-ils, essayez de vivre en paix avec elle. Faites la paix avec la nature. Cessez de lutter contre elle et dites-vous que vous en faites partie. Alors la nature elle-même ne pourra plus vous faire de mal. Et donc la religion même était de s'intégrer dans le monde plutôt que d'essayer de lutter contre le monde. Et il paraît que ça marche, vu des témoignages de gens qui disaient, justement de gens qui avaient été élevés par les Indiens et qui disaient qu'après avoir essayé de lutter contre le froid, rien que le fait de se détendre, tout à coup, ils n'avaient plus froid. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas très convaincu, mais néanmoins, je pense qu'il y a là quelque chose de très profondément vrai dans le rapport que l'on est appelé à avoir avec son environnement. Et j'ai redécouvert la même chose avant-hier, où est venu donner une conférence dans ces lieux le fils d'une de nos paroissiennes qui a 25 ans et qui est aventurier. Il a traversé tout le désert de Gobi à pied tout seul, et là il vient de traverser l'Alaska pendant 2 mois tout seul, sans personne et sans rien. Et il est venu raconter son affaire et il nous a dit exactement la même chose. Il a dit que plusieurs fois au début de ses voyages il avait failli mourir et que chaque fois il a été sauvé lorsqu'il a cessé de voir la nature comme un adversaire, mais qu'il a essayé de comprendre ce qui s'y passait et comment il pouvait s'y intégrer. Et que dès le moment qu'il avait compris les règles du jeu de la nature, eh bien tout à coup, tout se passait bien. Parce que dès qu'on se met en opposition par rapport au monde, en opposition à ce qui nous arrive, en opposition à notre contexte, en opposition aux autres, en opposition à notre famille, en opposition à nos événements et à nos épreuves, eh bien, on est fichu, parce que le monde est plus fort que nous, et que le monde peut nous écraser. C'est ce que dit Pascal, d'ailleurs, dans le célèbre texte du Roseau pensant. Vous savez, il dit, le monde, il est infiniment plus puissant que l'homme, il peut l'écraser, le tuer d'une simple goutte d'eau. Il dit, mais simplement, l'homme a quelque chose d'autre, qui est d'une autre nature. Et donc oui, évidemment que le monde est plus fort que nous. Et donc si nous voulons lutter contre le monde, être plus fort que tout, que tous les événements, que tous les accidents, que toutes les maladies, que le vieillissement et que la mort, vous êtes de toute façon perdant. Et donc il n'y a qu'une solution, c'est de s'intégrer au monde, d'en comprendre les règles et de l'accepter. Parce que le monde est le plus fort. J'ai appris encore la même chose, pour tout vous dire, en équitation, quand on essaye de diriger un cheval qui pèse 300 ou 400 kilos, de toute façon, il est le plus fort. Et donc, il n'y a qu'une manière, c'est d'essayer de le comprendre, d'essayer d'apprendre à lui parler, d'essayer de se mettre à sa place, et je dirais, de l'aimer. Ça ne veut pas dire être dans une passivité totale et de se laisser faire, mais c'est de comprendre les règles du jeu pour pouvoir justement en jouer. Et je pense en effet que c'est la même chose par rapport aux épreuves. Si nous essayons de lutter de force contre les épreuves, c'est elles qui nous mettront par terre. Et au contraire, nous devrions accepter les choses comme elles sont et voir comment en jouer. Et alors, elles perdent une partie de leur nocivité. Et on le voit en particulier dans quelque chose qui frappe toute l'humanité et qui est aujourd'hui, semble-t-il, particulièrement sensible. C'est le vieillissement. Il y a ceux qui se raidissent contre le vieillissement, qui se prennent des catastrophes à la première ride, aux premiers cheveux blancs, et qui sont effroyablement malheureux. Vous pouvez enrichir les chirurgiens esthétiques autant que vous voudrez, de toute façon, à ce jeu, on perd. Et au contraire, il y a le moyen d'en jouer, et de se dire, mais finalement, il y a d'autres chances, il y a d'autres grandeurs, il y a d'autres beautés, d'autres choses extraordinaires dans le fait d'avoir de l'âge et que par conséquent, le seul moyen d'en vivre heureux, c'est de jouer le jeu de sa vie et d'aimer son âge. Il n'y a pas d'autre solution que cela. Prendre les choses comme elles sont et de voir le bien qu'on peut en tirer. Évidemment, je vous disais, je n'invente pas grand-chose, c'est toute la philosophie grecque qui dit cela depuis toujours. Mais d'une certaine façon, ça se rapproche de, je dirais, d'une certaine façon, non seulement de vivre son rapport au monde avec quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, ou alors de le vivre avec quelque chose qui est de l'ordre de la non-violence. Parce que je crois que le seul moyen pour nous de vivre avec le monde est celui de la non-violence. La violence engendre la violence. Cela, on le sait, dès qu'on se met dans des rapports de force avec les gens, on engendre des rapports de force et des luttes. Ça peut être un choix, mais il faut le savoir. Il y a ce petit proverbe de la sagesse populaire qui dit « Qui sème le vent récolte la tempête ». Je vous le dis parce que personne ne sait que c'est un verset biblique, mais c'est pourtant un verset biblique. Dans le prophète Osée, chapitre 8, verset 7. Eh bien, c'est vrai. « Qui se place sur un plan de lutte de pouvoir, sur un plan de jalousie, tombe dans le cercle de la violence. » Alors, vous disais-je, de toute façon, où que vous viviez, vos voisins seront toujours plus méchants que vous. Où que vous viviez, il y aura toujours des gens plus forts que vous, plus agressifs. Et quoi que vous viviez, il y aura toujours une maladie qui sera plus forte que vous. Et donc le monde extérieur, oui, comme le disait Pascal, est plus fort que nous, la terre est plus forte que nous, le cours des événements aussi. Et il y a des tas de choses que l'on ne peut pas empêcher. Alors quel mode de rapport avons-nous avec le monde extérieur? Si c'est celui d'une lutte, ça peut être un choix, mais alors elle est perdue d'avance. Si c'est celui d'une collaboration, d'une intégration, alors nous pouvons être sauvés parce que nous pouvons vaincre et nous pouvons utiliser les événements même pour, je dirais, surfer sur les événements comme le surfeur surfe sur la vague au lieu de se laisser engloutir par elle. Et ces tourbillons de la vie sont finalement des chances parce que ce sont des sources d'énergie, des sources de dynamisme. J'ai dit du bien de la philosophie grecque, je n'en dirai pas que du bien, parce que les stoïciens disaient que l'idéal c'était l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence totale de tout sentiment positif ou négatif, de tout souci autrement dit. Et je dirais au contraire que, de mon point de vue de chrétien, le plat du lac sans une ride n'est pas mon idéal. L'idéal, oui, c'est quand même la tempête, parce que dans la tempête, il y a une énergie, il y a une capacité de transformer toute chose, mais c'est de savoir surfer sur les vagues de la tempête, d'utiliser cette énergie et pour être capable d'avancer et d'aller plus loin. Parce que là encore, Caïn s'est trompé. Il n'a pas su avancer d'un cran pour aller au stade d'après. Évidemment, nous n'aimons pas ça. Toutes les épreuves sont des craquements dans notre existence au moment où nous voudrions que les choses restent comme elles sont et voilà qu'elles ne restent pas comme elles sont. Ça nous est insupportable. Mais en même temps, c'est ces moments-là où il y a une ouverture tout à coup d'un possible, du fait de réinventer une nouvelle manière d'être qui peut être infiniment plus fructueuse que la précédente, qui en tout cas est différente et qui peut être dans tous les cas quelque chose d'extrêmement positif. Caïn n'a pas su faire ça. Il n'a pas su se réadapter, autrement dit, à une nouvelle situation. Et je dirais que ça va plus loin que le petit conseil de morale, parce que je crois que ce que je viens de vous dire, c'est aussi le mode d'action de Dieu par rapport au monde. Et que Dieu agit plus par intégration du mal que par lutte contre le mal. Ça, il faut le savoir, parce que dans nos prières, nous demandons à Dieu ceci, ceci ou cela. Mais je crois que Dieu sait mieux que nous quel est le chemin de la vie. Et le chemin de la vie n'est pas la lutte contre le mal, c'est l'intégration du mal, de trouver un nouvel équilibre et non pas de revenir en arrière en faisant en sorte que la chose n'était jamais arrivée. Parce que regardez Dieu par rapport à Caïn. Dieu a quand même dû être sérieusement contrarié. Je dirais, voilà, c'est le troisième homme créé, Adam, Ève, Caïn, premier-né, voilà que Caïn veut tuer son frère. C'est-à-dire, ça a dû quand même contrarier Dieu d'une façon considérable. Il aurait pu dire, puisque c'est comme ça, je dégage Caïn, je le tue. Il ne le fait pas. Il ne supprime pas Caïn, au contraire même, il le défend. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que Dieu va accueillir Caïn. Il va même l'intégrer dans son propre projet. Et il va tellement l'accueillir qu'il va même empêcher que les autres le tuent. Avouez que ça va très loin. Et il va essayer de l'avoir par la douceur, par la persuasion. Il va le reprendre pédagogiquement, il va mettre des mots, donner du sens, l'inviter à se ressaisir, à avancer, à se mettre en route. Mais Caïn désobéit, et vous disais-je, voilà encore que Dieu va le protéger et le laisser cheminer pour qu'il puisse faire sa propre route. Et donc Dieu, lui, va intégrer le mal, contrairement à Caïn qui ne saura pas le faire. Et je vous passe toute la Bible qui n'est que ça. Dieu sans cesse intègre les situations nouvelles et il trouve un nouveau mode de salut qui n'est pas du tout semblable à celui qui précédait. Et c'est le cas du Christ, évidemment. Le Christ, avec ce mal terrible qu'est la mort du Christ, la croix du Christ, qui aujourd'hui nous l'avons oublié parce que nous célébrons les croix un peu partout, il y en a une au-dessus de ma tête, mais la croix, dans le fond, c'est quand même l'échec de la mission de l'envoyé de Dieu. Dieu envoie son Fils pour convertir le monde, pour leur dire « aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement ». Les hommes prennent Jésus, le supplicient et le tuent. C'est l'échec fondamental de la mission du Christ. Et Dieu aurait pu envoyer effectivement des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre. Mais Dieu laisse faire ce mal même, il ne s'y oppose pas. Mais il arrive à le réintégrer d'une telle manière que finalement cette mort du Christ eh bien, est devenue la cause de la propagation d'une bonne nouvelle de l'amour et de la grâce de Dieu qui est venue jusqu'à nous, à un tel point que cette croix du Christ, qui est le symbole de la mort, du supplice, de l'infâme, de l'ignominie, devient pour nous signe d'espérance. Ça, c'est vraiment le miracle extraordinaire de Dieu qui arrive non pas à enlever le mal, mais qui reconstruit par-dessus et qui englobe ce mal par quelque chose de plus grand. Et c'est ce qu'enseignent aujourd'hui les théologiens américains, pour lesquels j'ai une certaine sympathie, les théologiens dits du « process » en anglais, c'est-à-dire de l'événement, du processus, ces théologiens qui disent que justement Dieu en lui-même est processus, c'est-à-dire que Dieu est dynamique. Et que Dieu n'est pas une sorte de chose immobile qui nous inviterait à rester immobile, mais que Dieu est lui-même dynamisme et source de dynamisme. Et que Dieu est action permanente dans le monde qui, justement, ne revient jamais en arrière, mais va réinventer sans arrêt un monde nouveau. Et chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une épreuve, avec l'aide de Dieu, nous pouvons réinventer une autre manière d'être. Et Dieu, sans cesse, continue de créer le monde, de recréer, de réinventer et de refaire du nouveau. Ça, c'est l'action créatrice de Dieu et que nous sommes invités à avoir nous-mêmes, parce que nous aussi, nous sommes créateurs à l'image de Dieu. Et donc, à l'image de Dieu, nous devons sans cesse inventer. Inventer, recréer, réinventer notre vie à chaque minute, à chaque journée, dans chaque situation. Et c'est là où Dieu nous aide. Plutôt que de prier Dieu pour que les choses ne se passent pas ou reviennent en arrière, priez Dieu qu'il vous donne l'intelligence, qu'il vous donne l'imagination, qu'il vous donne la créativité nécessaire pour pouvoir réinventer une autre manière d'être qui dépasse et qui englobe celle qui nous avait momentanément freinés. Dieu a réussi à faire des merveilles à partir de la glaise, à partir de la terre, il crée Adam. Et il peut faire quelque chose de toutes les glaises, de toutes les boues de notre existence. Il peut donner vie à tout ce qui est de plus sombre, le plus noir, le plus mortifère de nos vies. Il peut y insuffler le souffle de son esprit pour que de cela, de la vie puisse naître. La seule chose qui n'a pas de sens, c'est le non-être, c'est l'immobile et c'est l'absurde. Mais Dieu peut donner du sens à ce qui nous semble absurde. Caïn fait tout le contraire. Il renvoie l'être vivant à la terre. Il tue Abel. C'est l'action inverse de celle de Dieu qui crée l'homme de la terre pour faire un humain. Caïn a peur du coup que les gens le tuent, mais que qui le tue d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus grand monde pour le tuer. Ce n'est pas ses parents qui vont le faire. Le Talmud dit que ce sont les animaux qui risquent du coup de tuer Caïn. Parce qu'en effet, Caïn agit comme une bête, comme un imbécile et comme une bête, comme un animal. Il se met au niveau de la violence, au niveau des animaux, et il risque à son tour de subir la violence. Dieu ne veut pas ça. Et vous disais-je, le summum de l'action de Dieu, on le voit dans le cas du Christ. Christ qui est homme. En quoi est-ce fondamentalement une bonne nouvelle pour nous? Eh bien, c'est que on voit dans le Christ que Dieu arrive à amener le salut dans l'imperfection même de l'homme. C'est-à-dire que Dieu va assumer l'imperfection fondamentale de l'homme, il ne va pas la nier, il va la transcender, et il va agir à l'intérieur de l'humanité. C'est pourquoi, d'un point de vue théologique, je suis contre tous ceux qui prétendent que Jésus était tout le temps sans péché, voire qu'il soit né d'une Marie totalement vierge et pure. Toute cette pureté me semble dénaturer le message extraordinaire de l'incarnation. Dieu est venu apporter sa parole sainte et éternelle dans le corps d'un homme imparfait et pécheur comme nous. Et si Dieu arrive à faire en sorte que dans l'imperfection fondamentale de l'humain réside sa sainteté, sa grandeur et sa puissance de vie, mais alors il peut faire résider aussi sa puissance de vie et son esprit dans toutes nos imperfections, dans tout ce qui nous arrive, dans tous nos événements. Jésus, bien sûr, a vécu des épreuves, on parle des tentations, mais d'autres, il a vu mourir son ami Lazare et d'autres choses. Eh bien, Dieu a réussi à revitaliser en mettant une puissance d'esprit et de vie dans toutes ces choses-là. Et donc, oui, j'ai espoir et je sais que c'est là que Dieu agit. Il peut mettre, même dans les choses les plus apparemment absurdes ou sans sens, il peut mettre une source de vie nouvelle, d'espérance et de paix. Aimez-vous les uns les autres, nous dit le Christ. C'est répété un peu partout, jusque dans Paul, 1 Corinthiens 13, l'amour est la clé de tout, et je crois que c'est vrai, mais pas simplement le fait d'être gentil avec son voisin. L'amour, c'est une disposition d'esprit fondamentale d'ouverture, d'acceptation, d'accueil de ce qui est autre que moi-même. S'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à l'altérité, s'ouvrir à ce qui n'est pas moi, s'ouvrir même à ce qui me contrarie, ce qui est le propre d'ailleurs de l'autre en général, et de ne pas se mettre en situation de combat, mais se mettre en situation d'ouverture et d'accueil, alors il n'y a plus de combat, plus de mort, et il n'y a que de la vie qui s'ouvre. Et nous pouvons ainsi puiser, je dirais, dans la source infinie d'amour qu'est Dieu, puisque Dieu, lui, il nous accepte bien, il nous intègre bien et il nous accueille bien. Alors que, je ne sais pas vous, mais moi je sais que journellement, je suis pour Dieu une véritable épreuve. Et il m'accueille, il m'accepte, il vient me parler à mon oreille comme à Caïn pour m'inviter à aller plus loin et à dépasser ce péché qui est le mien, et il me sauve. C'est donc cette source infinie de l'amour de Dieu aussi qui peut nous permettre de transfigurer toute chose dans notre existence, qui peut nous permettre de ressusciter de toutes les difficultés qui nous assaillent, et nous pouvons ainsi vivre de cet amour de Dieu pour aimer, parce que cet amour, Dieu nous l'offre, qui que nous soyons. Amen.